une histoire particulière. Le 6 octobre 2020, passait en vente à l'hôtel Drouot un livre bien curieux. Un exemplaire de l'édition originale de La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, paru en 1795. Olivier Chomel et Julie Bérécy nous ont raconté hier dans le premier épisode combien ce livre est rare. L'acquéreur a déboursé 45 000 euros pour un objet sur lequel est inscrit au premier contreplat, sur le même cuir que celui de la reliure, volume couvert en peau humaine. On appelle cela la bibliopégie anthropodermique. Après l'effroi, voici le temps de l'enquête. Comme pour le premier épisode, j'invite les auditeurs sensibles ainsi que le jeune public à s'éloigner de leur poste.
Il est si doux de changer de sexe, si délicieux de contrefaire la putain, de se livrer à un homme qui nous traite comme une femme, d'appeler cet homme son amant, de s'avouer sa maîtresse. Ah, mes amis, quelle volupté! Mais Eugénie, bornons-nous ici à quelques conseils de détail, uniquement relatifs aux femmes qui, se métamorphosant en hommes, veulent jouir à notre exemple de ce plaisir délicieux. Je viens de vous familiariser avec ces attaques, Eugénie. Et j'en ai assez vu pour être persuadé que vous ferez un jour bien des progrès dans cette carrière. Je vous exhorte à la parcourir comme une des plus délicieuses de l'île de Cythère, parfaitement sûr que vous accomplirez ce conseil. Je vais me borner à 2-3 avis essentiels à toute personne décidée à ne plus connaître que ce genre de plaisir ou ceux qui leur sont analogues.
La philosophie dans le boudoir. Très bel exemplaire, un peu spécial. Olivier Chomel, Julie Bérécy. Second épisode, de la douceur du cuir humain et autres curiosités.
L'exemplaire est parfait. Il a été relié au XIXe siècle. Je fais abstraction pour l'instant de la nature de la peau, mais qui a quand même une importance. Vous pouvez considérer qu'un exemplaire normal vaudrait entre 60 et 70 000 s'il n'y avait pas cette plus-value impossible à évaluer ou très difficile à évaluer qui fait l'unicité du livre de cette reliure en peau humaine. Alors, je précise que les reliures en peau humaine ne sont en général pas belles. Celle-ci est belle. C'est le livre le plus important relié en peau humaine. Ça faisait un an et demi que je fantasmais sur cet exemplaire.
Et cet après-midi-là, vous étiez au téléphone ?
J'étais ici.
Chez vous ?
Oui.
Et vous attendiez qu'arrive le 148 ?
Ben, ils m'ont appelé. L'étude m'a appelé.
Quand approchait le passage de la philosophie dans le boudoir.
Exactement.
Donc nous passons au livre ancien, en particulier avec le 148, que nous commençons à 30 000.
Je ne sais pas quelles eussent été mes limites.
Et vous avez le sentiment de vous en être plutôt bien sorti.
Oui. Moi, lorsque j'ai eu connaissance de cet exemplaire, je pensais qu'à ça. Je vous raconte la manière dont j'en ai eu connaissance.
J'allais vous poser la question. Oui.
Alors, j'avais acheté à une vente dite Curiosa, dans l'étude Marais Saint-Germain.
Ça veut dire érotique.
Oui, donc j'avais acheté pas mal de choses dans cette vente, et je suis allé donc les chercher chez Marie Saint-Germain. Et incidemment, elle me dit... J'ai quelque chose qui va vous exciter dans mon coffre. C'est un livre très important dans une reliure en peau humaine signée de l'ortique. L'ortique qui était, comme vous le savez peut-être, le reliure de Baudelaire. Il a relié 8 exemplaires des Fleurs du Mal. Elle ne me l'a pas montré, mais elle me dit « il n'est pas encore à vendre, mais il sera à vendre ». Ça m'a tout de suite intéressé. Et ça m'a même obsédé. Et puis, finalement, la vente dont vous avez le catalogue a été annoncée. Et j'ai décidé d'acquérir le livre en n'ayant vu que des photos de ce dernier. Mais par contre, j'avais envoyé des gens, quelqu'un en qui j'ai toute confiance, qui est capable de voir avec mes yeux. En réalité, je n'ai pas pu aller à la vente. À la limite, le téléphone était une meilleure manière parce que c'est quand même plus discret. Non pas que j'ai pensé à conserver l'anonymat de mon achat, parce que en réalité tout le monde sait les choses dans ce petit monde de la bibliophilie, mais simplement je voulais pas être poussé dans les enchères par des gens qui soit m'estimaient, soit me détestaient. Donc j'ai acheté ce livre dans des conditions que je juge incroyables.
5 000 euros à 45 000, je vais adjuger.
Pas par vous qui arrivez, non, 45 000.
À 45 000, c'est bien vu. Adjuger 45 000 euros.
Parce que...
Favorable ?
Oui.
Il était estimé au catalogue entre 40 000 et 60 000 euros.
Et il a fait le... Il a fait 44, 45, je ne sais plus.
C'est vrai, vous vous souvenez plus?
À 1000 euros près, je ne me souviens plus.
45.
D'accord.
Ce qui fait à peu près 56 000, avec les frais inclus.
Oui. Bon, j'ai donc pu le payer.
Toi. Toujours toi. Rien que toi. Partout toi. Toi, 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 toi. Je t'ai dans la peau, y a rien à faire.
On a pu fabriquer quelques blagues à tabac, des portefeuilles et d'autres objets de maroquinerie à partir de peau humaine. Pour ce qui est d'en couvrir des livres, c'est très rare, mais ça a pu exister aussi. On en connaît une cohorte très disparate d'une bonne centaine d'exemplaires, tout en supposant qu'il en existe certainement bien d'autres, tapis dans les rayons de bibliothèques privées, et peut-être pas toujours identifiés comme tels, tant notre peau est semblable à celle de nombreux autres mammifères à première vue. Cet artisanat bizarre s'est exercé essentiellement au XIXe siècle, et s'est éteint depuis, heureusement sans doute. Ce qui choque évidemment, c'est que pour cette pratique, il faut en passer par le prélèvement de peau sur des cadavres, ce qui ne se fait guère. Nous proposerons tout de même, plus loin, une façon presque honorable de ressusciter la bibliopégie anthropodermique, c'est-à-dire l'art de relier des livres avec du cuir d'Homo sapiens.
Elsa Marie Saint-Germain, la présence de ce numéro 148, un petit volume de Sade relié en peau humaine, censément, fait que la vente sort de l'ordinaire, soudain.
Oui, ça fait basculer la vente dans une dimension un peu différente qui est celle de se poser la question de savoir si on peut tout vendre. Et c'est ça qui est délicat dans cette vente-là, c'est de savoir si effectivement, et ça s'est laissé un peu à la liberté du commissaire-priseur, même si la loi interdit de vendre des objets qui sont faits à partir de restes humains, compte tenu qu'il y a une petite exception qui est celle des biens culturels, du moment que les restes humains constitueraient un bien culturel, dans ce cas, on pourrait les vendre. Évidemment, un livre, il n'y a pas plus objet culturel, pas plus bien culturel qu'un livre, et surtout une édition originale du Marquis de Sade, mais l'éthique fait se demander si c'est vrai que c'est opportun de vendre un livre qui a été relié en peau humaine.
Qu'est-ce que ça rajoute au livre, ce petit détail, monsieur Jean ? Il y a tout de même une espèce de gêne autour de ce genre d'objet.
Il y a une espèce de gêne dans les pseudo-sociétés tolérantes, mais en réalité très intolérantes dans lesquelles on vit aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je conserve mon anonymat.
Moi, ça ne me crée pas de malaise, mais ça peut créer des malaises
Emmanuel chez
les gens. Mais c'est parce que notre regard sur les objets en restes humains, en peau, avec des dents, avec des cheveux, n'est plus le même que celui qu'avaient nos ancêtres ou nos prédécesseurs. Il y a des litiges, par exemple, ou des affaires qui provoquent des émotions aujourd'hui sur la vente de reliquaires. Par exemple, de reliquaires avec des reliques supposées être des reliques de saints. Alors vous savez que les reliques ne sont que des preuves de foi et rien d'autre. Donc c'est rarement...
Souvent ce sont des os en bois.
Oui, c'est rarement le véritable petit orteil de Saint Jérôme ou les cheveux de Sainte Catherine qui sont dans le reliquaire. Ou alors elle avait une chevelure telle, c'est comme la couronne d'épines de Christ. Il y a de quoi en faire un déguisement pour tourner 50 péplums. Donc c'est rarement la vraie relique ou le vrai morceau, mais c'est souvent quand même des restes humains. Il y a souvent des cheveux, il y a souvent des dents, il y a des phalanges, très souvent. Et il y a eu, il y a même pas plus tard qu'il y a au printemps 2020, il y a eu une vente de reliquaires qui a été arrêté et suspendu, où on a retiré trois reliquaires de la vente parce qu'un évêque s'est indigné qu'on puisse vendre des restes humains. Et a-t-il rajouté qui plus est des restes humains de saints. Et ces objets ont été retirés par le commissaire-priseur de la vente et sans doute vendus par ailleurs de gré à gré.
Emmanuel Pierrat, est-ce que c'est le même cadre légal dans le cas de reliques, dans le cas d'objets de maroquinerie, de reliures, dans le cas de pièces anatomiques?
Alors, le cadre légal, c'est le code civil qui indique aujourd'hui qu'on ne peut pas faire commerce de restes humains. Donc on ne peut pas faire commerce du corps humain. En aucun cas. Après, il y a néanmoins dans la doctrine du Conseil des ventes volontaires, qui est donc l'organe officiel, qui n'est pas un syndicat professionnel, qui est une autorité érigée par l'État, il y a des prescriptions dans lesquelles ils considèrent qu'on peut déroger à cette interdiction pour ce qui concerne des objets manifestement culturels.
Jennifer Kerner, vous êtes archéologue et nous parlons de bibliopégie anthropodermique. On aime bien, surtout pour une pareille matière, se cacher derrière des langues antiques.
Oui, c'est un très très joli terme savant pour désigner une pratique qui est parfois peu ragoûtante aux yeux du spectateur contemporain, puisqu'il s'agit de relier des livres avec de la peau humaine.
On se pince pour y croire.
Oui. Ça donne des œuvres qui sont esthétiquement intéressantes, pas toujours repoussantes, comme on peut en avoir l'impression. Il y a certains ouvrages reliés en peau humaine sont véritablement des chefs-d'œuvre de reliure, quoi.
Surtout celui dont on parle. Un petit exemplaire de l'édition originale de La philosophie dans le boudoir, paru en 1795,
ouais.
Relié peut-être 90 ans plus tard.
Oui, cet exemplaire est exceptionnel au niveau de sa facture. On a d'ailleurs été très étonnés d'avoir une adjudication aussi basse pour une telle œuvre. Mais justement, peut-être que la provenance humaine du cuir a joué en la défaveur de cette reliure qui est d'une qualité exceptionnelle.
Et puis l'organisation de la vente a volontairement réduit la publicité de l'événement.
Bien sûr, mais c'est toujours délicat lorsqu'on est commissaire-priseur de faire passer sous le marteau un bout de cadavre humain, parce que finalement, c'est peut-être ce dont il s'agit. On attend toujours les résultats, on n'est pas certain que ce soit un authentique, mais si tel est le cas, il s'agit quand même de vendre la peau d'un humain, et d'un humain qui est mort il n'y a pas si longtemps, quelques siècles. Donc.
Et puis sans doute est-ce une jeune femme?
Évidemment, s'il y a dans la pratique de la bibliopégie anthropodermique une forte volonté de relier le contenu de l'œuvre avec le contenant. Donc on cherche à faire une œuvre globale. Donc sur un livre qui parle bien évidemment des femmes, que ce soit un livre de gynécologie ou que ce soit un livre érotique qui parle de Juliette ou de Justine, eh ben on a envie de mettre une femme autour du livre également, ouais.
Vous étiez à l'hôtel Drouot lorsque l'objet est passé en vente?
Non, je n'y étais pas. J'avais trop peur de me mettre à lever la main compulsivement alors que je ne peux pas me le permettre.
Avec Monsieur Jean, l'acquéreur de La philosophie dans le boudoir, édition originale 1795, présenté comme posthume alors qu'il reste 19 ans à vivre au Marquis de Sade. Quels sont les différents documents que vous avez déployés, Monsieur Jean?
Alors, j'ai naturellement l'exemplaire que j'ai acquis. J'ai trois autres ouvrages reliés en peau humaine, dont deux proviennent de la bibliothèque de Jean Lacassagne.
Qui était un médecin lyonnais, dermatologue,
et qui s'occupait beaucoup des prisonniers à la prison de Lyon, et auquel un prisonnier a cédé sa peau, qui était recouverte de tatouages. Et il lui a légué sa peau, et on en a la preuve, puisque d'abord, dans cet ouvrage, il y a une lettre du prisonnier, les mémoires du prisonnier, les mémoires de son complice, parce que ils ont assassiné deux personnes au cours d'un cambriolage qui a mal tourné. Ils ont été condamnés à mort, et le président de la République de l'époque les a graciés. Et immédiatement après, ce prisonnier est mort. Il était très très malade. Il est mort de mort naturelle, léguant sa peau avec ses tatouages à Jean Lacassagne.
C'est un volume qui fait 25 sur 30 à peu près.
Oui, c'est un grand in quarto.
Dans un emboîtage.
Vous avez ici un des tatouages. Ici, vous en avez deux autres.
Vous pouvez les décrire, s'il vous plaît ?
Ben, l'un d'entre eux représente un personnage avec une étoile. L'autre représente une dame. Ça, c'est le deuxième plan intérieur. Le premier plan intérieur, c'est une femme aussi. Et le second, ce sont des fleurs. Sur le premier plan extérieur, vous avez un oiseau gigantesque avec un texte.
Il y a le mot bleu.
Oui. Et sur le second plat, un fer à cheval avec la même étoile et une espèce de caducée. Et c'est la reliure en peau humaine la plus importante qui existe, puisque vous avez en tout 6 morceaux de peau humaine qui constituent cette reliure. Donc la victime de cette reliure s'appelle Rambert. Alors vous avez ici le portrait de Rambert, nu, où vous voyez tous ces tatouages que j'avais du mal à vous décrire, vous les retrouvez ici.
C'est tout à fait saisissant.
Les empreintes digitales de Rambert.
Le testament.
Le testament de Rambert, dans lequel il lègue sa peau à Jean Lacassagne. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire de reliure en peau humaine.
Jennifer Kerner. Rambert signe un testament,
ouais,
à l'adresse du médecin Jean Lacassagne. Alors, je vous en lis 3 lignes, c'est bourré de fautes, mais on comprend,
oui,
le sens. S'entend très bien que je ne veux pas faire de vieux os, je tiendrai une fois mort à ce que mon corps fût donné à la faculté de médecine et ma peau pour les tatouages à vous seul, monsieur le docteur Lacassagne.
Ouais. C'est très rare qu'on ait le consentement écrit d'un condamné à mort. Pour le cas de Rambert, c'est la seule fois où on voit qu'un condamné va léguer de son plein gré sa peau à quelqu'un. Et c'est amusant parce que la manière dont il le dit, on a l'impression qu'il s'est créé comme une sorte de connivence entre Jean Lacassagne.
Un pacte un peu diabolique.
Exactement. Diabolique, je ne sais pas, mais on sait que Rambert avait beaucoup de problèmes avec l'autorité. C'est d'ailleurs marqué sur la première page de ce livre, puisque vous pouvez lire « Mon droit Barca » sur la première couverture, ce qui signifie « Mon droit bafoué ». Juste en dessous, il y a marqué « Victime col bleu ». C'est quelqu'un qui déteste les représentants de l'autorité, qui les voit comme des oppresseurs. Et Jean Lacassagne, c'est quand même quelqu'un qui a passé des heures à lui demander de raconter sa vie. Finalement, quelque part, il lui a donné la parole. Alors, est-ce que c'est pas cette relation quasi psychanalytique de confiance entre ces deux hommes qui a donné lieu à ce legs ? C'est possible.
On a donc des exemples de reliures en peau humaine qui ont été affectées à des ouvrages traitant de médecine. Ensuite, il y a des ouvrages liés à la mémoire. Il y a les memento mori qui peuvent se manifester sous différents genres, des danses des morts, par exemple, reliées en peau humaine. Il y a un cas très particulier, on va dire judiciaire, où on a parfois relié en peau humaine des pièces de dossiers judiciaires liées à des crimes de sang en exécutant la reliure dans un fragment de peau prélevé sur le supplicié après l'exécution de la sentence du procès. Et donc, ça, c'est la deuxième dimension. Et puis, enfin, une dernière catégorie un peu plus disparate, qu'on dira littéraire, à laquelle il faut adjoindre la dimension érotique. Il va faire appel soit à des peaux prétendument féminines, soit à des peaux tatouées dont les sujets du tatouage évoquent de près ou de loin le sujet de la fiction développée par l'œuvre littéraire en question. Ça peut aller des Trois Mousquetaires, évidemment, de Dumas, ou Diabolique de Barbet d'Aurevilly, ou pourquoi pas au Comte de Lautréamont, et ainsi de suite.
Il est signalé au XIXe siècle l'existence d'un exemplaire de Justine,
oui.
du même Donatien Alphonse François de Sade, qui est décrit ainsi. Donc c'est un éditeur de textes licencieux qui assurerait qu'il tint entre ses mains une Justine dont la peau qui la couvrait avait été taillée dans des seins de femme, les tétons formant écussons au centre des plats de la reliure. Ça, c'est encore plus saisissant que notre philosophie dans le boudoir. En même temps, on a perdu sa trace, si jamais cet objet a jamais existé.
On a perdu sa trace, mais sa description correspond à un autre ouvrage érotique de Mercier de Compiègne, qui s'appelle d'ailleurs « L'éloge du sein des femmes », pour lequel la reliure est décrite de manière strictement identique. Donc il n'est pas impossible que cet ouvrage de Sade et celui de Compiègne, qui a été relié par René Kieffier, soit des authentiques, et soit actuellement dans des collections privées, probablement. Et je veux véritablement croire à l'existence de ce second Sade. Il ne reste plus qu'à le trouver, quoi.
Jean-Jacques Hublin, vous êtes paléo-anthropologue, et vous dirigez le département d'évolution humaine au Max Planck Institute à Leipzig, en Allemagne. Et vous avez été sollicité pour vous prononcer sur notre sujet, qui est le cuir de la reliure d'un exemplaire de l'édition originale de la philosophie dans le boudoir, du Marquis de Sade. De quelle technique est-ce qu'on peut se servir pour déterminer si une peau tannée appartient à telle ou telle espèce animale ?
Alors il faut bien comprendre que d'abord la paléanthropologie peut paraître très éloignée de l'étude de Sade et des techniques de reliure, mais en fait dans le cuir et en général d'ailleurs dans l'organisme, il y a une protéine qui est très très abondante et qui est très résistante, c'est le collagène. Donc en gros le collagène de différentes espèces de mammifères, c'est un peu toujours la même chose, sauf quand même que à cause de mutations qui sont accumulées sur le génome, de temps en temps il y a un de ces acides aminés qui est différent, il y a une substitution. Alors la technique, c'est une technique qu'on a appelée les ZOOMS, ça veut dire Zooarchaeology by Mass Spectrometry, et concrètement ça consiste à utiliser des enzymes qui vont couper cette chaîne du collagène à des endroits bien précis. Et donc on obtient des fragments de protéines qu'on appelle des peptides, et en faisant passer ces fragments dans un spectromètre, on va mesurer la masse de 4 de ces fragments, toujours les mêmes d'une espèce à l'autre, toujours coupés au même endroit. Et à cause de ces petites variations de composition de la chaîne d'acides aminés d'une espèce à l'autre, on va obtenir des chiffres différents,
de
des
masse
masses différentes pour ces différents fragments d'une espèce à l'autre. Et donc en combinant ces valeurs, on arrive à déterminer, alors en général on détermine au niveau du genre, mais on peut parfois descendre au niveau de l'espèce. Et donc ça, c'est une méthode qui est beaucoup utilisée maintenant. Pourquoi ? Parce que elle est très rapide. On peut traiter des grandes quantités d'échantillons en une seule fois dans un spectromètre. Et puis, elle est très peu coûteuse.
En ce qui concerne notre exemplaire de la philosophie dans le boudoir, on a procédé à un prélèvement d'infimes quantités de cuir grâce à une sorte de gomme avant analyse au spectromètre, laquelle n'a rien donné. Pour quelle raison, Jean-Jacques Hublin ?
On a demandé donc à celui qui conservait l'ouvrage d'effectuer lui-même ce gommage, de récupérer sur du papier stérile les fragments de gomme, nous les envoyer, etc.
Et à la sortie de votre machine, vous n'aviez aucun signal ?
Voilà, il n'y avait pas de signal, il n'y avait pas de collagène, donc... Après, il y a un coup de main, l'intensité du gommage, la façon dont on va recueillir ces fragments. Il ne faut pas être trop brutal, mais il ne faut pas être trop timide non plus. Donc, c'est un métier. Alors, je pense que si on voulait persévérer pour vraiment résoudre ce problème, il faudrait peut-être... nous-mêmes tenter un prélèvement par gommage, ou alors, après, évidemment, l'autre option, c'est d'enlever un petit fragment de cuir dans une partie de la reliure. Mais alors évidemment, le problème, c'est qu'un livre, c'est un très bel objet, c'est un objet, j'allais dire, fermé.
Il faut aller chercher des endroits où ça se verra pas.
Voilà, il faudrait arriver, mais je suis pas sûr que le collectionneur qui a recueilli l'ouvrage serait trop d'accord pour qu'on décolle une partie de la reliure et aller chercher un bout de cuir à l'intérieur.
Toi. Toujours toi. Rien que toi. Partout toi. Toi, toi.
Monsieur Jean, est-ce que si cet exemplaire de l'édition originale de la philosophie dans le boudoir n'avait pas été réputé relié de peau humaine, est-ce que vous auriez été intéressé au même titre ?
Oui, parce que la reliure est très belle.
Et ça suffit.
Et j'aurais peut-être été moins courageux que je l'eusse été s'il n'était pas tombé au prix que je souhaitais. Au prix auquel je l'ai eu, j'étais décidé à être plus courageux que le montant de l'adjudication. Le côté extravagant de cette reliure était pour moi un élément de fascination. Mais il n'y a pas de composante ésotérique là-dedans pour moi. C'est simplement que je trouvais cette reliure très élégante, faite par un des deux grands reliures de l'époque. Il y avait l'atelier de Lortic et l'atelier de Trotz. Les gens avaient coutume de dire où on est Trotzolâtre, où on est l'orticomane. Moi, je suis les deux. Et j'aurais été plus loin, je ne sais pas jusqu'où. Aucun collectionneur, ou amateur plutôt honnête, ne peut vous dire après la vente jusqu'où il aurait été. Parce qu'on ne le sait pas.
Nous avons trouvé la solution pour que la pratique de la bibliopégie anthropodermique, qui se propose de relier des livres en peau humaine, heurte moins violemment nos lois morales. Ce sont les services des grands brûlés qui nous ont fourni la clé. Lorsqu'un patient souffre de brûlures étendues, on prélève 1 cm² de sa peau restée saine, on y pratique quelques incisions permettant de l'étaler sur 9 cm², et après quelques temps de mise en culture, on obtient 9 cm² de peau propre à la greffe. Si on renouvelle l'opération 3 fois supplémentaire, selon la magie exponentielle, on obtient un carré de peau d'environ 80 cm de côté. De quoi relier 2 ou 3 volumes. Bon, c'est très théorique, mais cette méthode permettrait de pratiquer la bibliopégie anthropodermique sans avoir à prélever la peau sur des cadavres. Mais qu'attend-on ?
Je t'ai dans la peau. Y a rien à faire.
De la douceur du cuir humain et autres curiosités. Avec Monsieur Jean, acquéreur de la philosophie dans le boudoir relié en peau humaine, paraît-il, Alexandre Dupuis, de la librairie Les Larmes des Roses à Paris 11e, Emmanuel Pierrat, avocat, bibliophile, président du prix SAD, Elsa-Marie Saint-Germain, commissaire priseur, Jennifer Kerner, archéologue, Stéphane Oriou, bibliographe et libraire d'anciens, Jean-Jacques Hublin, paléo-anthropologue. Texte lu par Roland Timsit. Merci à Anne Hautecoeur de La Musardine et à François Angelier de France Culture. Coordination Christine Bernard, attachée de production Sylvia Favre, prise de son Yvan Turc, Laurent Macchietti et Fabien Capel, mixage Régis Nicolas. La philosophie dans le boudoir, très bel exemplaire, un peu spécial. Julie Béressy, Olivier Chaumel.
Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous irons au 28 de la rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement de Paris. Mais c'est une autre histoire.